Qu'est-ce qui vous fait marcher dans la vie ? On commence par Julie.
Je pense que c'est la pire question qu'on m'ait jamais posée et donc je remercie Michel à Nantes de me l'avoir posée. Maintenant, qu'est-ce qui me fait marcher dans la vie ? En fait, c'est très mystérieux. Petit à petit, en fait, mon cerveau malade fomente des trucs qu'il faut que j'aille résoudre et sur lesquels il faut que j'enquête. Ou alors, par exemple, un parking qu'il faut que je transforme en jardin ou un vaste continent qu'il faut que je transforme en livre. Mais c'est très mystérieux, donc je ne peux pas répondre à cette question.
Clément.
Je serais curieux d'entendre un florilège des réponses. C'est un peu comme... Quel est le sens de la vie ou...
Qu'est-ce qui te fait marcher dans la vie ?
Oui, j'ai compris.
La faim. Clément, je sais. Ouais, je connais un petit peu, c'est son ventre.
C'est la recherche du repas. Ça sous-entend en fait qu'il y ait un noyau central qui fasse se noyer, j'allais dire, se noyer dans la réponse, qui fasse marcher. Or, il y a plein de choses qui sont passionnantes dans la vie. Donc, pourquoi condenser ça en une chose qui nous ferait marcher ? Ouais, il y a un milliard de choses.
On est né curieux, ouais, on a un point commun.
Bonjour, il était une fois dans l'Est est le titre d'une histoire parue aux éditions d'Argo, écrite par Julie Birman et dessinée par Clément Oubrerie, qui sont également les auteurs de Pablo. Nous les accompagnons dans la rue.
Les gens posent souvent cette question. Est-ce que tu écris d'après les dessins de Clément ? Ou pas. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui m'étonne, en fait. Comment est-ce que ça serait possible ? Ça voudrait dire qu'il y ait quelqu'un qui fasse une bande dessinée muette et après, il faut que je réinvente l'histoire dessus. Non, c'est pas du tout ça, en fait. D'abord, j'apporte une histoire et puis, si elle plaît, éventuellement, Clément réfléchit et se demande s'il va réussir ou pas à en faire un livre, à avoir l'envie d'en faire un livre. Donc, c'est plutôt... Il n'y a ni aveugle ni paralytique, mais il y a plutôt quelqu'un qui se creuse la cervelle et après quelqu'un d'autre qui se creuse la cervelle. Voilà.
En tout cas, dans mon cas, je suis peut-être paralytique, mais il ne faut pas que je sois aveugle, ça c'est sûr, vu ma fonction. Ouais, mais non, mais ce qui est sûr, c'est que c'est jamais gagné d'avance, donc forcément...
Pour moi non plus.
Ouais. Non, mais voilà, c'est-à-dire que c'est un chemin semé d'embûches, donc sans être aveugle ni paralytique... On n'en est pas moins sujet à
tomber dans des ornières.
À des questionnements, à des recherches inabouties, des errements, des toutes sortes de tâtonnements. Voilà. Mais c'est ça qui est bien.
Chez toi, Julie, le texte ne peut pas suffire. Tu as besoin de l'appui d'un dessin.
Alors, c'est une très bonne question. Et moi, c'est mon côté un petit peu wagnérien. Je suis pour l'œuvre d'art totale. Et donc, en fait, le texte en soi-même, très bien. Et d'ailleurs, écrire pour la bande dessinée, ça m'a fait comprendre ce que c'est qu'un bon roman, en fait. Parce que dans un bon roman, il doit y avoir des scènes, des descriptions et tout ça. Mais en fait, il manque quand même l'image. Et pas l'image réaliste, plate. Une image qui est une sorte de sublimation de la réalité et qui est aussi l'incorporation de l'histoire dans le cerveau d'un dessinateur. Voilà. Donc, c'est pas totalement total, si je puis... parler ainsi parce qu'il manquerait la musique, mais le rythme de Clément est une sorte de musique aussi.
Ouais, c'est vrai que dans le cycle wagnérien, moi, ce serait plutôt Wotan alors.
Alors donc c'est pas aveugle et paralytique, c'est borgne.
Ouais, borgne mais avec une épée, canne, attention.
Et une canne et boiteux, borgne et boiteux. Donc Wotan étant l'espèce de roi des dieux de chez Wagner.
Ou Alberich.
Alberich étant le nain. Qui travaille dans les Nibelungen.
Qui transforme l'or en anneau. Mais donc, là, on s'égare.
Ouais, donc, pour revenir à la question, c'est vrai que, par exemple, avoir envie de dessiner la jeunesse de Picasso, c'est un sujet visuel. Et avoir envie de raconter la vie et le dernier voyage de la précurseuse de la danse moderne, c'est aussi très visuel. Et effectivement, une des gageures du bouquin « Il était une fois dans l'Est », c'était de réussir à raconter en dessin des danses, par exemple, une danse au milieu de la steppe sur la symphonie inachevée de Schubert. Voilà, c'était une gageure.
Qu'est-ce qui fait qu'un auteur rencontre un dessinateur?
Je sais pas, moi ça me paraît naturel en fait, c'est un peu...
C'est une chance quand en fait un scénariste, parce que les scénaristes écrivent donc des histoires et après cherchent un dessinateur, quand un scénariste trouve un dessinateur indisponible, donc ça déjà c'est une espèce de truc complètement fou. Oui, d'abord disponible... Et il est très taquin aujourd'hui. Et deuxièmement, dont les univers sont compatibles, ça tient plus du miracle. C'est pour cela qu'ayant déjà travaillé sur une première série en 4 volumes, eh ben, on a remis ça, parce qu'en fait,
me concernant... Fais pas trop de com.
Me concernant, ça tient du miracle de trouver quelqu'un avec qui, en fait, ça marche. Voilà.
Bah oui, moi aussi, hein, en fait... C'est très difficile de trouver des scénaristes avec qui on se comprenne. C'est pas toujours le cas. Et surtout, on a quand même un univers en commun, des centres d'intérêt communs, qui font qu'on se comprend à peu près.
On vient de croiser Stéphane Hessel.
D'accord.
Le sosie. Enfin, il est décédé. Hein.
Oui, non, mais c'était le sosie.
Ah.
Non, j'ai pas remarqué.
C'est celui qui jouait sa doublure dans les émissions de télé. D'accord, à Nantes. Non, t'es bien connu pour ses doublures, en fait.
Tout à l'heure, on est passé ici et j'ai raconté à Georges que ma tante était chef de rayon aux Galeries Lafayette dans les années 50. Ça me fait un petit pincement au cœur quand je passe devant cette institution.
Qui, à l'époque, s'appelait Decret à Nantes.
Oui, c'est possible que c'est... C'est possible. Alors, mais est-ce qu'il y avait des Galeries Lafayette ailleurs dans Nantes? Parce que je sais pas si c'était à cet endroit-là, mais je suis sûr que c'était aux Galeries Lafayette.
De Nantes.
C'était pas... Ouais, de Nantes, ouais.
Si, il y avait, mais pas à cet endroit-là.
Pas à cet endroit-là, c'est ça. Alors, c'était plus haut. D'accord, ouais, bah ça doit être ça. Effectivement. C'était un petit aparté historique.
On va parler tout de suite de l'album. Il est présenté comme un roman graphique. Moi, je dirais que c'est peut-être un storyboard qui va précéder un film.
Carrément, un storyboard. Vous y allez un peu fort. Vous avez déjà vu un storyboard?
Jamais, mais il y a des indications pour les réalisateurs, metteurs en scène.
En fait, ça, c'est une invention de Clément. Il a gardé quelques-unes des indications de mon scénario qui, au départ, étaient effectivement destinées à lui, au dessin, à nourrir son dessin. Il les a gardées parce qu'en fait, c'était une façon... de focaliser différemment la tension, en fait, les indications un petit peu neutres, façon roman noir.
Ouais, puis d'enrichir, de donner un sens supplémentaire à l'image, parce que ça donne des indications qu'on ne perçoit pas forcément, et qui sont complémentaires, en fait, du dessin.
Voilà, par exemple, on voit Essénine, donc le poète russe, marcher dans une rue, sur une place de Moscou, et puis on dit un jeune homme, bouffi, l'allure dégingandée, marche sur la place de la Loubianka. Voilà, donc ça a un côté un petit peu sec qui peuvent faire annotation de storyboard, mais en fait, c'est plutôt un côté un petit peu roman noir ou carrément western.
Eastern.
Oui.
En l'occurrence. Vous allez en 2 volumes nous raconter dans le désordre la vie et l'œuvre d'Isadora Duncan.
Ouais. Pourquoi on a choisi Isadora Duncan?
Parce que ça rentre dans une collection et puis...
non,
pas du tout.
Dans une collection?
Pas du tout.
Entre deux storyboards à collection, vous les collectionnez là, franchement.
Isadora Duncan, en fait, est connue uniquement parce qu'elle est morte étranglée par son écharpe, ou alors elle n'est pas connue du tout.
Et rouge.
Oui, rouge. Et personne ne sait que c'est elle qui a tout inventé en matière de danse contemporaine. Et en même temps, c'est un personnage très attachant parce qu'il va au bout des choses, il a mis tous les curseurs à fond. Et en même temps, c'est pas simplement une femme complètement dingue, c'est aussi une femme assez géniale et qui a une façon d'aimer très extrême. Et donc, ce qu'on raconte, c'est sa dernière grande histoire d'amour pour un poète qui est encore aujourd'hui le poète le plus connu de Russie, qui s'appelle Serge Essénine, qu'ici, à quelques milliers de kilomètres, on ne connaît absolument pas. Et donc, c'est aussi une façon de rentrer dans la poésie. Parce qu'à partir des poèmes d'Essénine, ça m'a inspirée pour décrire le Moscou des années 20 et un Moscou méconnu, en fait.
L'autre raison, c'est formidable ici, les voitures s'arrêtent pour nous laisser passer. En même temps, c'est peut-être qu'il y a un régiment de type surarmé qui est en train de nous croiser aussi. Une autre piste est que dans Pablo, il est question des sandales de Gertrude Stein. Et en fait, Julie, pourquoi tu fais une grimace ?
C'est vrai, ça.
C'est aperçu que, enfin, a lu quelque part que les sandales de Gertrude Stein, qui était un élément assez incongru à l'époque, parce qu'il y avait peu de parisiennes très chic qui se baladaient en sandales, était fabriqué par un dénommé Raymond Duncan. Et donc, c'est en tirant sur la lanière de la sandale qu'elle est arrivée jusqu'à Raymond Duncan et Isadora Duncan. Et là, on a découvert l'ampleur du personnage. Sujet, ouais. Et aussi le fait qu'en fait, dans sa vie tumultueuse, elle croise plein de gens qu'on adore. Par exemple Rodin, par exemple Bourdelle, Wagner, enfin bref.
Ouais, elle ne croise pas Wagner, mais elle va à Bayreuth, ouais. Et elle va chorégraphier en fait le premier acte de Tannhäuser, et qui est une espèce de danse du Vénusberg. Alors c'est Vénus qui essaye d'ensorceler le héros, et voilà, et elle doit chorégraphier ça. Donc, et aussi, en fait, elle a écrit ses mémoires, Isadora Duncan, mais ses mémoires devaient être en deux volumes, et seulement elle est morte à la fin du premier volume, donc le deuxième n'existe pas, et il devait raconter son voyage en Russie. Et donc, je me suis dit, voilà, c'est ça qu'il faut raconter, le livre qu'elle n'a pas pu écrire.
Partie romancée, je connais pas la vie exacte, hein. Je connais un peu la trajectoire d'Isadora Duncan, mais je connais pas sa vie. Donc sa rencontre avec Lénine, c'est...
Tout est vrai, en fait, mais c'est assez intéressant comme question, parce que...
Je vous remercie.
Effectivement...
Pour une fois.
Effectivement, je lis des données biographiques et tout ça, mais une source principale d'inspiration, ce sont les œuvres d'art qui ont été faites, les écrits par exemple d'Essénine, qui racontent peut-être bien plus la relation qu'il a eue avec Isadora que les données biographiques qu'on peut retrouver. Et donc souvent, dans les poèmes, j'essaye de comprendre ce qui s'est passé. Donc est-ce qu'il y a de l'invention, de l'interprétation, en tout cas, sans doute. Mais ces poèmes disent beaucoup. Mais en tout cas, ce qui m'amuse, c'est d'essayer de retrouver ce qui s'est vraiment passé. C'est comme une enquête.
J'agrée.
Tu t'inspires de photos.
Oui, bah photos, enfin comme c'est le matériel habituel, hein, c'est-à-dire les bibliothèques, internet et.
Bah tu recrées des décors, mais c'est vrai que tu t'inspires de décors réels.
Bah c'est-à-dire que Isadora en elle-même, je me la suis vraiment appropriée, c'est-à-dire que c'est pas un portrait, elle est pas ressemblante, elle est un peu ressemblante, mais pas, j'aurais pu vraiment la faire ressembler, mais...
On sait pas à quoi elle ressemblait à 20 ans, ouais.
Bah si, on a des photos.
Ouais.
Oui, mais quand elle est adolescente... Ouais.
Elle a pas que 20 ans dans le livre.
Non, et puis même les photos, c'est pas forcément fidèle à ce qu'elle était vraiment.
Ouais, enfin moi il me semble que je vois quand même assez bien la tête qu'elle avait, mais bon, peut-être que je suis complètement fou, mais j'ai l'impression de savoir à peu près. Enfin, je l'ai modifié quoi, par rapport à son aspect de l'époque.
Alors que Lénine est très ressemblant.
Alors que Lénine, je l'ai gardé, ouais. Je suis allé au mausolée faire son...
Mais en revanche, quand il applaudit Isadora Duncan, ça, c'est vraiment... C'est avéré. Cette scène, voilà, est avérée.
Voilà, et donc... sinon, graphiquement, pour moi, c'était une première, parce que c'est le premier livre que je fais uniquement en couleur directe.
Nous accompagnons dans la rue Julie Birman et Clément Oubrerie, les auteurs d'Il était une fois dans l'Est... Un roman graphique paru aux éditions d'Argo.
Pour moi, c'était une première parce que c'est le premier livre que je fais uniquement en couleur directe. Donc tout à la peinture en une seule couche, quoi. D'habitude, il y a le dessin d'un côté, la couleur de l'autre. Donc là, c'était une tentative qui était un vrai défi, puisque je ne l'avais jamais fait, parce que le livre fait quand même 150 pages. Mais voilà, et j'ai beaucoup appris en le faisant. J'ai beaucoup refait aussi. Et du coup, ça change un peu par rapport à Pablo, justement. Ça change l'aspect graphique du dessin.
Une autre question intéressante, enfin, si j'ose m'autoriser à faire cette appréciation.
On bat dans patience.
Quand le personnage principal est une femme libérée qui va bousculer les codes de la danse, qui va exclure le corset, le tutu et tutti quanti, est-ce que pour la scénariste et le dessinateur, ça leur offre cette possibilité de s'affranchir eux-mêmes d'un certain nombre de codes pour être dans l'esprit inspiré par le personnage? Je dis ça parce que pour les auditeurs, les auditrices qui iront se précipiter pour lire la bande dessinée, ou le roman graphique ou le storyboard, selon.
Le ref, on peut le dire.
On va s'apercevoir qu'il y a quelques extravagances et puis quelques pages, notamment quand vous reproduisez le mouvement de la danse, qui sont assez originales. Elle était pas mal, cette question.
Oui, c'est une belle question. Déjà, elle est longue, ça laisse le temps de réfléchir à la réponse. C'est vrai qu'on s'est un peu cru tout permis hein, dans ce livre, c'est-à-dire que au niveau du scénario, bah, déjà, c'est pas chronologique. Alors là, panique, parce qu'on commence par un bout, ensuite on revient en arrière, etc.
Ah donc, bah le lecteur est perdu.
Le lecteur est perdu, et en plus, c'est vrai que ça alterne la bande dessinée classique avec éventuellement une double page sans texte qui n'a rien à voir
avec un cheval.
Avec un
il
cheval
exagère,
mort.
Il exagère.
Avec un cheval.
En fait, c'est très classique.
Ah bah,
mais quand. Bon, vas-y.
Bah non, je sais plus ce que je voulais dire.
Ah, en fait. C'est bien. Si vous pouvez discuter, là, c'est pas mal.
Voilà, le après, cheval, il y a des moments consacrés à la danse. Donc là, il n'y a plus de cases. On est complètement dans la page. Après. Il y a des personnages qui font des récits et à ce moment-là, on est plutôt sur du texte avec des vignettes. Bref, on s'est cru autorisé à tordre un peu les codes de la bande dessinée. Un petit peu quand même. Non, tu as l'air dubitatif.
Non, moi, je suis pas d'accord.
Bon, bah, c'est d'autant plus croustillant. On va apprendre des tas de trucs ici, c'est formidable. Et donc, non, mais simplement à pas être... pris dans une structure trop rigide et effectivement d'adapter la forme et le fond en fonction des circonstances, ce qui est assez Le Corbusien, forme et fonction.
Et c'est vrai en fait, quand il y a des scènes de danse, les cases explosent et ça c'est
sans
vrai
danger hein, je précise pour les éventuels acheteurs du...
Ensuite, les codes de la bande dessinée, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est vrai que l'expression roman graphique, ça nous va mieux, c'est-à-dire qu'on essaye de raconter une histoire. En l'occurrence, bousculer la chronologie, ce n'est pas vraiment vrai non plus, parce qu'en fait, c'est très construit et vous le sentirez bien quand vous irez sur le tome 2, en fait. C'est comme une espèce de volt qui boucle en l'air. Et après, est-ce qu'on va retomber sur ses pattes? À vous de juger dans le tome 2. Et c'est vrai qu'en fait, il y a des flashbacks, mais je pars de cette idée en fait que quand on est à un moment de sa vie, on ne cesse de ressasser ou de se replonger dans son passé et que c'est cette plongée dans le passé qui nous guide pour l'action dans le présent. Et donc c'est pour ça qu'en fait il y a aussi des flashbacks. Ils sont en train de vivre cette passion en 1920, mais en fait pour comprendre ce qui se passe et les décisions qu'elle va prendre, on a besoin d'aller avec elle dans des moments de son passé et c'est pour ça que il y a des retours en arrière. En résumé.
Merci à Julie Birman et à Clément Oubrery, les auteurs d'Il était une fois dans l'Est, un roman graphique paru aux éditions d'Argo, pour leur libre participation à ce reportage enregistré dans les rues de Nantes.